il y a 2 semaines dans le bureau de Par Jupiter.
Faut qu'on soit beaucoup plus malin aujourd'hui.
Ah, hier, on s'est fait avoir comme des bleus, là.
Et oui, on doit pas oublier notre but premier.
Ne rien foutre.
Voilà, on l'aura un jour, on les aura nos vacances.
Ouais, on a qu'à fabriquer des marionnettes à notre effigie. Et on les met dans le bureau, on fait croire qu'on bosse toute la journée, et puis voilà.
Mais non, ça marchera pas. On va tout miser sur la 5e vague.
Ah ouais, oui. T'as raison. On va dire qu'on fait plus de télétravail cette semaine.
Salut puis, les amis.
Salut Charline.
Je vous ai apporté des croissants, des cafés, puis du jus d'orange.
Trop sympa, trop cool. Merci Charline.
Mais quand même.
Oui, Charline, alors, on n'a pas un truc à faire, là.
Si. Ah oui.
On doit partir.
Aller chercher les cadeaux, c'est ça?
Oui.
Parce qu'il faut pas les acheter sur Amazon, hein. Vous avez pas intérêt à faire ça.
Non, t'inquiète, moi j'achète mes cadeaux sur un petit site vegan, hein. Ils vendent des chaussures en bambou, des cendriers en bouse de vache.
Attends, mais c'est quand même sur internet ça, Guillaume.
Ah mince.
Et moi, j'attends les soldes.
Oh, la technique de droite.
Oh bon, peu importe, Charline.
Voilà, oui.
On voudrait.
Oui, ouais. Pour les florilèges.
Pour les florilèges.
Ah oui, mais ça je vous ai pas dit. C'est moi qui m'en occupe aujourd'hui.
Yes.
Mais donc on doit pas travailler. Oh là là, plus que 3, Alex, plus que 3.
Alors attendez, vous ne travaillez pas? Oui, mais au bureau.
Ah non.
Si.
Donc on n'a pas les vacances, on les a pas.
Ah bah non. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'écoute des Florilèges de Noël. Cet espace où la dinde de l'actualité est fourrée par la blague au marron.
Ouh, mais c'est peur.
Nous sommes descendus dans la cave pour arroser tout ça,
oui.
Évidemment, et remonter 2 grands crus d'émissions. 2 grands crus, millésime 2016, tous les deux. Tout d'abord, Luz.
Chic.
Et puis, Isabelle Nanty. Quant aux chroniques, Alex, vous, il y a du frais, il y a du vintage.
Eh bien, il y a Clara Dupont-Monod, vous savez, cette chroniqueuse qui remporte tous les prix littéraires.
Oh là 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 là.
Eh bien, à l'époque, elle a chroniqué le livre de Luz, Guillaume Meurice, toujours dans l'émission avec Luz, est allé à la rencontre des francs-maçons. Qu'a-t-il trouvé? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Et puis, nous revenons dans le plus récent, Constance, la journée mondiale de Christophe Colomb. A-t-elle découvert l'Amérique en cherchant les Indes? Elle aussi, je ne sais pas. Et on terminera en chanson avec, évidemment, Frédéric Fromet, chanson de novembre 21, La France moche. Je pense qu'il s'était disputé avec à peu près toutes les régions de France.
Eh bien, nous allons commencer cette émission, je dois dire, avec une saillie. Accrochez-vous.
Attention.
Ah bah attendez, c'est pas tous les jours qu'il passe par le studio.
Non.
Alors il s'est un peu lâché, c'était pour notre plus grand plaisir. On rejoint Luz.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Juppé.
C'est bien vous, Alain Juppé.
Je vais me demander qu'est-ce qui nous prouve que c'est Luz qui est avec nous aujourd'hui. Vous venez de nous le prouver, c'est bon.
C'est gentil.
Ça vous a fait plaisir de prendre la place d'Alain Juppé, même 2 minutes.
Ouais. Non, mais on sait jamais. Ça peut arriver à tout le monde de prendre la place d'Alain Juppé. Il suffit de vieillir.
Luz, vous publiez « Oh vous, frères humains » d'après l'œuvre d'Albert Cohen. C'est paru chez Futuropolis. Alors, l'objet de cet album, il commence avec Albert Cohen au crépuscule de sa vie, qui revoit le gamin qu'il était quand il avait 10 ans, dans la rue, trop content de vouloir acheter un petit quelque chose qui fera plaisir à sa maman. Et au moment où il tend la monnaie à un camelot, le camelot le traite de sale youpin. Et c'est cette insulte qui prend toute la place dans le livre et qui envahit le gamin, Albert Cohen, et qui envahit de toute la noirceur les pages.
L'insulte, c'est évidemment la haine est quelque chose d'horrible. Et en même temps, paradoxalement, elle peut vous fabriquer. Elle peut, là, en l'espèce, Albert Cohen a été frappé, je dirais même d'une certaine manière, violé dans son innocence d'enfant par la haine antisémite d'un camelot. Et en même temps, cette haine qui s'est déversée sur lui, ce type qui le traite de youtre, de youpin, d'anti-France, etc. Des choses qu'on rencontre encore maintenant, même un discours qu'on peut rencontrer sur des pages YouTube, etc. Eh bien, ça va le constituer, en fait. Ça va le fabriquer, bizarrement.
Alors, revenons au dessin aussi dans le livre, donc adaptation de l'œuvre d'Albert Cohen, hein, « Oh vous, frères humains ». C'est donc une insulte au départ qui en fait devient un tombereau d'insultes assez immense dans le livre, qui noie le gamin, et puis qui se déforme aussi et qui se répète à l'infini. C'est une forme de métaphore de dire que s'il y avait eu qu'un camelot à la rigueur, mais il y avait des millions de camelots, ou bien c'est aussi vos souvenirs et vos perceptions maintenant qui se déforment et se répètent à l'infini.
C'est vrai qu'il y a deux aspects à cette haine que rencontre le petit Albert Cohen et que raconte Cohen dans son livre. C'est à la fois cette même trois aspects. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le camelot qui déverse sa haine, il y a aussi les badauds autour qui disent rien, qui applaudissent, qui rigolent, etc. Et en plus, ils découvrent la haine qui était déjà écrite sur les murs avant qu'ils découvrent cette haine verbale, qu'ils n'avaient jamais remarquée. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a effectivement, il y a mort juif ici, il y a mort juif là, il y a etc. Et tous ces graffitis antisémites, ils ne les avaient pas vus avant. Parce que tout d'un coup, on lui avait pas foutu le nez dans cette vie adulte qu'il ne connaissait pas. Et au bout d'un moment, ça rend dingue. C'est-à-dire que je pense que le gamin,
il fait parler ses mains. Il est lui-même à la frontière du basculement de la folie, quoi.
Ouais, exactement. Mais pour un gamin, c'est plus facile d'être taré, parce qu'un gamin c'est l'imaginaire est en constitution, donc on voit un gamin qui discute avec ses doigts, avec ses mains, ça va. Si vous discutez avec vos mains et avec vos doigts, soit vous êtes italien, soit vous allez en psychanalyse.
Elle aurait besoin.
Moi parfois il m'arrive d'avoir des vraies conversations avec ma main gauche et...
Oui, très bien, c'est l'album de Luz, donc le dernier album. Oh vous frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen, c'est paru chez Futuropolis. Clara Dupont-Monod, revenons Charline. À l'ouvrage de notre invité, Luz. C'est normal, elle fait ça à chaque fois.
Luz,
oh vous frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen, paru chez Futuropolis.
Oui, alors pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route, ou alors pour ceux qui n'écoutent que ma chronique, ils sont nombreux, voici l'histoire.
Pour s'endormir.
Je cite, « Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant. » C'est ce qu'écrit Albert Cohen dans l'édition de 1972, puisque la première version du texte était parue en 1945. Alors, c'est ce que vous avez adapté, donc vous, Luz, dans un album. Et cet album, il a une particularité, c'est que il est presque silencieux. Non seulement il y a peu de textes, mais surtout, en fait, il y a assez peu de textes de Albert Cohen. C'est une très bonne nouvelle, pour deux raisons. D'abord parce que, je vous l'avoue, l'écriture d'Albert Cohen ne fait pas partie de mes préférés. Voilà, c'est dit. Et ensuite, parce que, mine de rien, avec cet album, vous réalisez un tour de force technique, c'est-à-dire que vous dessinez ce que génèrent les mots d'Albert Cohen. Vous vous êtes appuyé sur le ressenti du lecteur, beaucoup plus que sur l'intention de l'auteur. Démonstration, puisque je vois vos regards un peu ébahis. Le livre commence par la voix d'Albert Cohen, qui se souvient de ce terrible souvenir d'enfance. Alors, il dit dans le livre qu'il est vieux, vous le dessinez vieux. Il dit dans le livre qu'il est seul, vous le dessinez tout seul. Mais il ne dit pas qu'il est en robe de chambre et qu'il vit dans une cité de béton. Et c'est comme ça que vous le dessinez. Parce qu'en fait, c'est exactement l'image qu'on s'en fait. Ce monologue, quand on le relit bien, il évoque un état d'abandon. Il évoque des barres d'immeubles, un décor tout gris derrière les fenêtres. En d'autres termes, les mots dessinent un ressenti. Et donc, ce ressenti, vous le dessinez, vous le reprenez à votre compte. De la même façon, la scène fondatrice du livre, elle est au début. Albert, 10 ans, je la rappelle, Albert, 10 ans, s'arrête médusé devant un marchand ambulant qui vend du détachant. L'enfant veut l'offrir à sa mère et puis le marchand lui lance, je cite, « Toi, t'es un youpin, hein ?» Et il se déchaîne devant la foule hilare. Alors, dans le livre, ce discours est retranscrit tel quel. Albert Cohen ne fait pas de commentaires et en gros, il s'étale sur deux petites pages. Eh bien, vous, Luz, vous en prenez le double de pages parce que, oui, cette tirade paraît longue quand on la lit tellement elle est infâme. Et d'autre part, vous transformez les mots du marchand en une espèce de bouillabaisse qui sort de sa bouche et qui recouvre l'enfant. Ouais. En d'autres termes, il vomit sa haine. Votre dessin met en forme ce que le lecteur ressent à la lecture du livre. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. Bon. Pas du tout.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'idée de la trahison d'un texte, en fait, c'est totalement un faux problème. Vous savez, on dit souvent adapter, c'est trahir. Dans quelle mesure on a le droit ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser ou pas ? Mais dans votre cas, mais la question ne se pose absolument pas. Ça n'a pas de sens puisque, en vous appuyant sur le ressenti du lecteur, en fait, sur ce que j'appelle les vapeurs du texte, qui émanent de ce texte et qui créent des impressions, vous êtes déjà dans l'interprétation, dans une part subjective, donc incontrôlable, qui n'appartient qu'à vous et du coup au lecteur de l'album. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a juste un moment où, pour le coup, vous stoppez cette mécanique et vous vous rangez complètement du côté de l'auteur. C'est à la fin, page de gauche, le texte d'Albert Cohen, cette fois retranscrit tel quel, quasiment tel quel, parce que là, il y a un écho avec notre présent. Cohen et c'est magnifique, je le reconnais, dégomme l'amour du prochain, fadaise qui n'a récolté que des morts. Il dit « ne plus haïr importe plus que l'illusoire amour du prochain ». Et il dit aussi, et là, Albert Cohen est au plus près de vous, de nous et de Charlie Hebdo, écoutez bien, oui, ses yeux morts mais ouverts vous regardent, haïsseurs, vous regardent lorsque vous riez, vous regardent lorsque paisiblement vous dormez, vous regardent lorsque vous priez, vous regarderont lorsque vous agoniserez. Je vous donne les références du livre « Au vous, frères humains » de Luz, adaptation d'Albert Cohen, paru chez Futuropolis.
Merci Clara Dupont-Mono.
Merci, ouais. Je suis sur le cul, ouais, parce que c'est exactement... Enfin, c'est... c'est exactement ce que j'ai cherché.
Elle a réussi à traduire ce que vous avez cherché à faire. Ouais,
c'est un coup de bol, hein, normalement elle est toujours à côté.
C'était Gorillaz, accompagné de Fatoumata Diawara, qui chantait « Désolé, vous écoutez France Inter, les florilèges de Noël, de par Jupiter, où on remonte dans le temps, on va rechercher le meilleur des émissions, mais ça c'est grâce aux invités. C'est la qualité des émissions, des invités. Et c'est Luz qui était avec nous.
Ça c'est de grande qualité.
En 2016. Luz, avec vous, on va aborder le premier sujet. C'est la réforme du plus vieux métier du monde. Le changement, c'est maintenant, mais pour les trucs très très anciens. Donc, on a mis du temps, mais les clients des prostituées seront désormais pénalisés. Alors, qu'en pense la mère Maquerelle, déjà ?
Les filles qui se touchent pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop des putes. Les filles qui se laissent ploter pour une mammographie, c'est trop des putes.
Ça vous plaît, Clara ?
Les filles qui sont tenues
devant le médecin légiste,
c'est la femme d'un copain.
C'est trop des putes.
C'est Guy Edré.
Oui.
Des putes, voilà.
Alors, c'est un Frédéric Fromet, mais sans les testicules.
Voilà. Bon, vous conseille, hein, Guy Edré, vraiment.
C'est pas Jean-Jacques Goldman.
Voilà.
Vous pouvez pas connaître.
Pour la réforme du plus vieux métier du monde, donc les clientes prostituées désormais pénalisées. Moi, j'ai lu que à l'époque de la grosse Bertha, qui était, ouais, un peu le brouillon de Charlie Hebdo, vous louiez des chambres dans les hôtels de passe parce que vous habitiez à Tours, et puis vous veniez à,
oui,
Paris déposer vos dessins,
exactement,
rentrer, ouais, à la grosse Bertha, pas dans la grosse Bertha, mais à la grosse Bertha. Donc c'est un milieu que vous avez un peu croisé.
Vous faites des, un boulot d'enquête incroyable dans cette émission. Mais effectivement, ouais, c'était j'allais dans les hôtels du côté de Sentier, enfin de la rue de Saint-Denis, enfin du haut de la rue de Saint-Denis, mm-hmm, et c'était des hôtels de passe les moins chers possibles. C'était 70 francs à l'époque. Alors, je sais plus du tout ce que ça fait en euros. Et je me rappelle de chiottes. Enfin, bon, il y avait des cafards. C'était assez normal, assez bien tenu. Et il y avait des je me rappelle d'un soir où il y avait des chiottes, mais qui étaient complètement ensanglantées avec des genre une espèce de vraiment de vraie explosion de
Tampax.
À la fois de Tampax et de sexe. Il y avait des capotes partout, etc. Et après, j'ai loué un appartement, boulevard Ney, un peu plus haut, où en fait, il y avait des travestis qui tapinaient dans le hall de mon appart.
Oui, donc oui.
Donc en fait, j'ai passé ma vie à glisser sur des préservatifs.
C'était presque un ticket d'entrée aussi pour aller à la grosse Bertha, non ? C'était un peu...
Non, mais disons que c'est un ticket d'entrée. Disons que c'est l'école de la vie.
Ça vous rendait sympathique, en tout cas,
ouais,
à leurs yeux. Donc la France est le quatrième pays européen à pénaliser le client. Donc en langage capitalistique, on dirait que c'est plus l'offre qui est sanctionnée, mais la demande. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Ça vous paraît une avancée ? Vous voyez les choses comment ?
Je ne sais pas. C'est assez marrant quand même un gouvernement de gauche qui a un peu une espèce de politique de la répression inutile. C'est-à-dire que, enfin, inutile et presque, enfin, dangereuse, parce que après aussi, il y a prostituées qui vont se retrouver sur Internet, qui va être mmh, encore plus confidentiel.
Ça va donc être plus dur à traquer sur Internet.
Ouais. Plus dur à traquer sur Internet, mais aussi plus dur à protéger. C'est-à-dire que les prostituées vont être plus difficilement protégeables aussi. Et puis il y a ce truc qui est marrant. J'ai vu un truc. C'est un syndicat de police qui a dit Synergie, un syndicat de police Synergie de droite, donc un syndicat de police qui a dit on n'ira pas se cacher dans les bosquets ou les toilettes pour voir s'il y a du commerce charnel. On ne fera pas la politique du bidet. C'est-à-dire que déjà les flics disent ça sert à rien en fait. Ouais. Donc
un peu dubitatif.
Donc un peu dubitatif. On a l'impression que c'est une espèce aussi de coup d'éclat sécuritaire de plus.
Mais est-ce que c'est pas important symboliquement de pénaliser la personne qui oppresse, à savoir le client?
C'est-à-dire que
pas le proxénète, c'est bizarre. C'est pas le proxénète.
Vous pouvez laisser répondre l'invité, Clara.
Plus que le client. Non, mais c'est quand même super étonnant.
C'est-à-dire que l'important c'est le proxénète. C'est, par exemple, vous mangez au McDo, vous?
Non.
Par exemple, c'est comme si on disait, franchement, on va.
Moi, je suis pour pénaliser le client du McDo aussi.
Mais hein.
C'est ça le problème.
Laissez le dernier répondre, lui.
Arrêtez. C'est-à-dire, plutôt que de pénaliser les protéines, les trucs dégueulasses qu'il y a dans McDonald's, on va pénaliser celui qui va
acheter. On va faire les deux, en fait. Ça ne veut pas dire que je défends les proxénètes quand je dis ça. Ça veut dire qu'on peut faire les deux,
sûr,
certainement.
Oui, mais à ce moment, est-ce que la politique d'un pays, c'est de faire du symbolique?
Ça peut aussi, ouais, être ça, ouais.
On voit la déchéance de nationalité qui était prétendument symbolique, où ça a mené, mis à part des scissions au sein de notre classe politique. Est-ce que ça a fait vraiment avancer le schmilblick? Là, il s'agit d'êtres humains qui sont sur le trottoir, qui sont en danger, et que l'on sache, ce n'est pas le client qui a confisqué les papiers et qui les tabasse quand le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous.
Bah, que l'on sache, il n'y a pas de
client. Merci Guillaume Meurice, et l'on passe au sujet 2.
Oui, voilà, parce que les deux sont intéressables sur le sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'avis de Luz, donc je suis ravie.
Il a un bonnet.
Ça, c'est fait.
C'est fait.
Et l'avis d'Alain Juppé, alors?
Ah, je sais pas. Est-ce qu'il va aux putes, Alain Juppé?
Oh, sûrement.
Mais bien sûr qu'il va aux putes.
On finira par le savoir. Mais
oui. Évidemment. Avec la tête de gland qu'il a avant. Ça serait dommage d'en priver les autres. Alors.
On va aborder rapidement le troisième sujet, qui est un sujet aussi profond que celui qu'on vient d'évoquer, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron, qui lance son mouvement politique En Marche, ni de droite ni de gauche, parce que le type est moderne. Il pense out of the box, Emmanuel Macron. Et alors, il veut faire tomber les barrières, c'est beau comme du Céline Dion. En Marche, donc, ce week-end, Macron a préparé ses troupes, écoutez.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
En Marche, quoi.
Hein ? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause, 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord ? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas.
Et voilà, En Marche vers 2022.
Facile.
Emmanuel Macron. Donc c'est un extrait
2022
des
dans le plus mauvais des cas.
D'un extrait des randonneurs. Luz, votre job c'est aussi les politiques habillés très très chaudement par la com, une couche épaisse.
Ouais.
Voilà.
Ils foutent à poil.
Exactement.
Leur enlever leur putain de com.
Alors, il y a une bonne grosse couche chez Emmanuel Macron, non ?
Oui, mais c'est marrant, j'ai l'impression que personne n'est dupe quand même. Genre,
je pense pas non plus, mais
le type, il est un peu con. Non, mais il est un peu con parce qu'il dit, c'est un mouvement qui s'appelle En Marche, et puis il dit ni à gauche ni à droite. Alors comment tu fais?
Bah tout droit, je sais pas.
Bah tout droit. Alors, avec quoi? Le GPS du MEDEF. Enfin, il y a quelque chose qui coince en fait dans sa logique. Déjà, on se dit, on est obligé de se foutre de sa gueule.
Ouais.
Quand on vous entend parler d'actu comme ça maintenant depuis trois quarts d'heure, on sent que vous êtes encore à fond baigné dedans, que vous avez à fond un avis sur les choses.
Est-ce que distancié
vous...
quand même.
Ouais,
distancié,
je suis plus distancié.
Est-ce que ça vous titille pas de dessiner ces choses-là, quoi, aussi?
En fait, le problème, c'est que, en fait, quand on a dessiné justement, plutôt particulièrement des politiques, c'est qu'on dessine des politiques, on va sur Google Images, on dessine leur gueule, etc. Et vous vivez avec les politiques, au fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vous envahissent. C'est-à-dire Sarkozy, j'ai dessiné mais des tonnes de fois, et puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Mais c'est-à-dire que travailler avec l'actualité, ça devient aussi insupportable. Parce que vous êtes tout le temps avec eux, ou eux sont tout le temps avec vous.
Est-ce que ça manque? C'est ma question. Est-ce que par moment?
Apparemment pas.
Non.
Il a répondu, là.
Non, d'être poursuivi par Alain Juppé, par François Hollande, etc.
On commence même à vous comprendre.
Après, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il y a les présidentielles qui arrivent, et puis il y a des enjeux aussi. Donc, le truc qui va me titiller, c'est moins de dessiner, Macron avec son gros nœud, là, qu'il a sous le...
Son gros nœud qu'il a sous le...
Non, mais vous avez remarqué, il a un énorme nœud. Moi, j'adore le... Enfin, j'aimais le dessiner. Ah putain, il faut pas que je replonge. Il a quand même un énorme... Il a toujours un nœud de cravate énorme.
Ah, oui, c'est vrai.
Le nœud de cravate le plus énorme de la classe politique. Ouais. Comme s'il y avait vraiment, genre, je mets ma bite sur la table et mon gros nœud de cravate.
Attention, parce que c'est comme la drogue. Il faut pas replonger tout de suite. Gardez un peu de large, ça fait du bien. Respirez, Luz. On vous conseille plutôt pour l'instant l'album, et puis quand ça vous reviendra avec 2017. Tiens, une autre carrière s'ouvre devant vous là.
L'exercice qu'on demande à chaque invité à la fin de l'émission, c'est le sketch. On l'a écrit pour vous, on vous a donné un rôle que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Vous êtes Dieu et vous en avez marre et vous allez boire un petit coup au bar. C'est Guillaume Meurice qui est le barman. On y va.
Tenez, monsieur, un petit coup de rouge, là, ça vous remontera le moral.
Merci bien.
Ça fait longtemps que vous déprimez, monsieur ?
Depuis qu'ils m'ont inventé.
Ah, d'accord. Et ça fait longtemps ?
C'est variable, ils ne m'ont pas tous inventé en même temps. C'est...
Mais dites donc, il est pas mal, celui-là. Il est beau comme un dieu.
Ah, c'est cohérent.
Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?
Ben, tout.
Ah oui, je sais, vous êtes Bernard Tapie.
Non, mais lui, il a longtemps cru qu'il était moi.
Mais donc, je comprends pas le contenu de votre job, c'est quoi ?
Bah, de manière générale, je m'occupe de la paix dans le monde.
Ah oui, d'accord, donc vous êtes en RTT, là, après.
moi, j'ai rien compris. Hein.
Non, mais c'est une bonne partie du problème. Je ne dois pas être très clair.
Ah bon ?
Non, en tout cas, je suis souvent très mal interprété.
Ouais, bah, moi, j'ai toujours rien compris. Hein.
En fait, je suis Dieu, voilà, ni plus ni moins.
Ah, mais lequel des dieux?
Le seul, il n'y en a qu'un, personne d'autre ne veut faire le job.
Non mais t'as ça, alors Dieu dans mon bar? Je peux prendre un petit selfie?
Non, j'aime pas trop les images de moi.
Ah pardon, excusez-moi, pardon.
Avec tout ce qui se passe, pourquoi vous êtes au bar à boire des coups?
Ah bah je viens de présenter ma démission.
Hein? Non mais à qui il présente sa démission, Dieu?
À l'intelligence.
Ah bon, et elle a accepté?
Je ne désespère pas.
Mais si vous avez démissionné, il faut absolument prévenir tous vos soutiens. Alors.
Bah surtout, faut fêter ça. Allez, c'est ma tournée. Allez, à la reconversion de Dieu.
Génial. Bah vous allez faire quoi maintenant?
Rien, comme avant.
Il est drôle.
Ah bah dis donc, t'as plus d'humour que t'es fidèle. Hein.
Et il est où?
Ah, et monsieur Dieu, y avait à la Jupiter?
Mais il est passé où?
Bah, attends, on n'a pas rêvé, il était là?
Bah si, il était là, enfin je crois.
Bah en tout cas, il est plus là.
Bah non, bah alors on l'a créé.
Ah bah ouais, peut-être parce qu'on s'emmerdait tout simplement.
On s'emmerde toujours d'ailleurs.
Bon bah viens, allez, on va aller raconter qu'il existe à plein d'autres gens qui s'emmerdent.
Ouais, génial.
Génial, allez hop.
Si j'avais un sifflet, touloulou, je sifflerais la mienne. Ça sent la fin d'année, le début de l'autre.
Oui, ça va pas bien, vous. Hein.
Enfin bref, si j'avais un sifflet, oui. Je sifflerais la mi-temps.
Voilà.
Et ça annonce toujours l'arrivée de Guillaume Meurice.
Exactement, et là, il nous parle franc-maçonnerie.
Ah,
ouais.
Ah bah,
intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Mais moi, je suis complètement chamboulé, Charline, aujourd'hui. Vous avez vu la une de l'Express cette semaine? Aucun dossier sur les francs-maçons. Non. Donc comment on fait? On est perdu. Comment on fait pour savoir comment mange un franc-maçon, comment baise un franc-maçon, si un franc-maçon est plutôt slip ou caleçon, et le droit à l'information, on en fait quoi? Hein? Alors heureusement, je suis là et je me suis rendu à un colloque organisé par la Grande Loge de France pour essayer de percer les mystères de la franc-maçonnerie et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'abord que la franc-maçonnerie, c'est avant tout une façon d'aller à la rencontre de soi-même. Hein. Plus précisément, c'est
une méthode d'introspection, c'est-à-dire d'aller chercher en nous-mêmes ce que nous avons perdu de vue.
Mais alors ça, on peut faire du yoga pour ça, par exemple?
On peut faire du yoga, parfaitement. Mais la particularité de la maçonnerie, c'est de le faire en fraternité avec un certain nombre de personnes que, autrement, nous n'aurions jamais rencontrées dans notre vie.
Ah ben, comme dans un club de yoga, pareil.
On a des francs-maçons qui font du yoga, d'ailleurs.
Oh la vache! Alors eux, ils doivent être carrément en double introspection, hein, totalement tournés vers eux-mêmes. Ça va être un peu des mélanges entre Alain Delon et le Dalai Lama. Ça va être très, très impressionnant. Mais c'est vrai que la franc-maçonnerie peut s'apparenter, selon les francs-maçons, à de la méditation, à quelques différences près.
Il y a un côté travail dans l'altérité, travail avec l'autre, qu'on n'a pas dans la méditation. La méditation, c'est vraiment on s'assoit sur le coussin, avec les épines, et puis voilà, c'est seul face à soi-même. Et
vous là, asseyez sur des coussins d'épines?
C'est ça, ouais.
C'était pas la méditation, vous êtes fakir, en fait.
Oui, il y a un peu de ça dans la méditation.
Oui, alors faites gaffe, hein, n'allez pas dans le même club de méditation que ce monsieur, hein, sauf si vous voulez avoir mal au cul, ça c'est votre problème. Mais pour ça, vous avez qu'à revoter Hollande en 2017. Vous n'avez pas besoin d'acheter un coussin à épines. Tiens, puisqu'on parle trahison du socialisme, est-ce qu'il y a toutes les classes sociales dans la franc-maçonnerie?
Alors, honnêtement, oui. Ceci dit, il y a une...
Soyez honnête, si c'est marqué franc-maçon, il y a franchise dedans.
Oui. Non, mais vraiment, tout le monde peut venir. Ce qu'il faut, c'est avoir envie, et comme vous le dites, un peu de temps.
Donc il y a un peu de femmes de ménage, quand même.
Quand on a vraiment envie, quand on a vraiment le désir profond d'avancer, le temps, on le trouve.
Oui, voilà. Alors, il y a plus de notaires que de femmes de ménage, mais c'est parce qu'on sait que le notaire est un gars qui a envie d'avancer. C'est comme ça, il est comme ça, le notaire. Je dirais même qu'il est en marche, hein, tel un banquier de chez Rothschild. Alors que la femme de ménage, ben non, elle a tendance plutôt à être statique. Puis elle a pas de relation, la femme de ménage. Hein. Alors si des fois elle se fait violer dans un Sofitel, bon, ça c'est vraiment le coup de bol. Mais bon, faut avoir le réflexe de garder contact avec le mec. C'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut des contacts, hein, pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Il faut être intronisé. Alors, est-ce qu'on peut parler de réseau?
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sur Facebook, vous avez un réseau, sur Twitter, il y a un réseau. Bah, nous, on est francs-maçons, on est moins nombreux.
Oui, mais par exemple, pour avoir un poste important, être sur Facebook et poster des photos de chats, ça ne me sert à rien.
Si vous pensez qu'en étant franc-maçon, j'aurais réussi mieux.
Je ne sais pas, c'est ce qui se dit.
Ah ben, c'est ce qui se dit, mais est-ce que c'est vrai?
Ben, je sais pas, je vous demande.
Je peux pas dire que ce n'est pas vrai.
Ah ben non, on peut pas dire que c'est pas vrai. Hein. Toujours cette notion de franchise. C'est con d'avoir mis franc dans l'intitulé du nom, parce qu'on a l'impression que ça les engage à quelque chose. C'est comme Clara. Hein. Heureusement qu'elle s'appelle pas Clara Sourire. Hein. Ça devrait déjà à faire moins souvent la gueule.
On a mis Guillaume Courage.
Ceci dit, certains francs-maçons ne sont pas d'accord, hein, avec cette idée de réseau.
Ça, c'est un fantasme. J'en suis l'exemple personnel. J'ai galéré en tant que franc-maçon pendant des années sur le plan professionnel. Et j'ai jamais trouvé de réseau qui m'ayant permis de sortir de cette galère.
Alors du coup, il n'y a pas beaucoup de fraternité alors, entre frères?
Si, il y a beaucoup de fraternité, mais seulement, il y a parfois une pudeur. On n'est pas, quand on est dans l'ennui, on a parfois des réticences à l'exprimer.
C'est vrai?
Oui.
Bah, il faut demander de l'aide à ses frères.
Oui, c'est vrai. Et je reconnais que parfois, j'ai péché de ce côté-là.
Oh, il est mignon parce qu'il est pudique. Oh là là, c'est pas un franc-maçon, c'est un chou-maçon, on a l'impression. Il a su garder son secret. Hein, voilà. Et le secret, c'est très important chez les francs-maçons, n'est-ce pas ?
Il y a un seul secret. Il y a un seul secret. Pour moi, c'est un secret intérieur. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, c'est pareil. Si je vous dis, tiens, voilà, écoute tel morceau de musique, on écoute le morceau de musique. Puis après, on cherche à le partager. Alors, il est comment, ce morceau de musique ? Bah, il est rouge, il est bleu.
Voilà, alors attends. Un morceau de musique rouge ou bleu, si c'est pour nous faire du manoukian, c'est pas la peine. On a le même à la maison. Et puis surtout, eux aussi, ils ont le même. Car qui j'ai croisé à ce colloque ? André Manoukian, dis donc ! Bah, dis donc, on savait que Manoukian avait pas mal de maîtresses, mais a-t-il un grand maître, André Manoukian ? Hein ? Bref, André Manoukian est-il franc-maçon ?
J'ai dit que j'étais un maçon sans tablier. Ça veut dire que sans être dans la franc-maçonnerie, je partage certains de ses idéaux. Notamment l'humanisme des Lumières du XVIIIe siècle. Et moi, je fais même remonter la franc-maçonnerie aux pyramides égyptiennes. Mais là, on va pas avoir assez de temps.
Non, on va pas avoir assez de temps parce que la batterie de mon enregistreur a seulement 8 heures d'autonomie. Hein. Donc clairement, j'avais pas le temps d'écouter vos explications sur la franc-maçonnerie depuis les pyramides en passant par le triangle du stérilet afghan et Kompa Yoruba. Puis, je vais vous dire, j'en avais un peu marre du préchi-précha maçonnique. Pour échapper à la religion, pas besoin d'en inventer une autre. Il suffit simplement de rester fidèle à la devise « Ni Dieu, ni Maître ».
Guillaume Meurice, merci. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make 'em jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know. You better lock your door and look at me a little more. We both know I'm worth waiting for. That heavy breathing on the floor. Bossa Nova par Billie Eilish, bien sûr, qui est sur la playlist France Inter.
Si on écoutait la Billie Suite de l'émission.
Bien sûr, évidemment,
Billie, tout est Billie ici.
Vous tenez une telle forme pour un 28 décembre, oui, je ne sais pas comment vous faites. Alors, sachez que nous allons retourner en 2016. Car moi, je suis descendue à la cave chercher les meilleures bouteilles.
Je sais,
j'annule tout par Jupiter. 2016, nous recevons Isabelle Nanty.
Oh là là.
Ah bah, c'était pas triste. Bah, ne me dites pas que j'ai l'accent des tuches, quand même.
Presque. D'ailleurs, ah oui, quand moi j'ai l'accent de la Meuse naturellement, puisque je l'avais avant de venir à Paris. Voilà, à Bar-le-Duc, Verdun, je suis née à Verdun. Et quand je suis allée tourner en Belgique, les profs d'eux, eh bien, très vite, je me mettais à parler avec l'accent de Bruxelles.
Ah oui, vous avez une sorte de mimétisme et quand vous
voilà,
êtes dans un...
Et ils croyaient que je me foutais de leur gueule, mais pas du tout. Moi, c'était ma patrie, tout d'un coup, je me sentais... Voilà, la Meuse n'était pas loin.
Alors, Les Tuches 2 se retrouve aux États-Unis. Donc, c'est pas un gag de dire que cette fois-ci, c'est une production hollywoodienne. J'imagine que vous avez travaillé avec des Américains.
Oui, on a des spartiates, on a des culottes en cuir. Et puis, voilà, on a été dans le sable, on a fait des combats de gladiateurs.
Mais la France est attachée à cette famille.
Ah oui. Non, parce que je ne sais pas ce qu'elle leur dit, cette famille, mais je crois que... Je sais pourquoi les gens aiment ça. Je crois que c'est parce que les Tuches, c'est des gens qui jugent pas. C'est des gens qui...
Mais qui sont un peu jugés.
Oui, mais ils sont... En fait, ils sont jugés. Ils sont jugés comme des beaufs, alors même que je pense que les gens qui les jugent comme des beaufs sont eux-mêmes des beaufs. Car être un beauf, c'est finalement avoir du jugement, pas de respect, et considérer qu'il y a des gens moins bien que vous.
C'est la famille Groseille, un peu.
C'est-à-dire que ils ont le goût de l'abondance, ils ont le goût de ils ont le goût de comme des enfants de toujours plus, ce qui fait que quand ils mettent des couleurs, ils n'en mettent pas que deux, ils en mettent 3, 4, 5. Quand ils mangent des patates, c'est gratin et frites. Et voilà, c'est et ça, oui, les Tuches.
Il n'y a pas une carte de crédit, il y en a beaucoup plus que ça.
Voilà, ils sont dans l'excès, en fait. Mais ça, c'est pas forcément
des choses. Non. Ouais.
Alors, la comédie, on sait que c'est de l'orfèvrerie, c'est de la chirurgie. Alors, on se dit quand même que quand vous jouez avec Jean-Paul Rouve et les autres, il y a quand même, c'est difficile de rester concentré, c'est difficile de pas entrer dans le délire. Comment est-ce qu'on gère les scènes où il y a l'horlogerie très précise du gag et de la réplique, et en même temps, cette envie, j'imagine, qui vous titille de partir.
On la gère pas. voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très dur de jouer avec Jean-Paul Rouve, qui est vraiment un clown extraordinaire et surtout dans ce Jeff Tuche, je ne résiste pas. Il y a des moments, je reste très concentrée en Cathy, puis il y a un moment, Isabelle qui redevient spectatrice et qui part en sucette. Et je me marre, quoi. Et non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un peu... C'est du grand n'importe quoi.
Oui, vous le confirmez.
Oui,
c'est ça qui est bien.
Voilà. Le grand n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi quand c'est pas drôle. Mais quand c'est drôle, finalement, c'est tout de suite...
Et excusé. Souvent, le grand n'importe quoi peut être organisé. Et là, on se reconnaît un petit peu. Ce que vous venez de dire. Nous sommes en compagnie d'Isamel Nanty. Allez, on va aborder le premier sujet avec vous. Quand le supplément week-end des Échos parle de cinéma, il parle des patrons au cinéma. On pourra voir un biopic sur Steve Jobs mercredi. Alors, allons voir à quoi ressemblent les patrons sur grand écran. On a déjà trouvé la bande originale valable pour tous les films.
Ils se battent pour l'emploi, c'est ça leur honneur.
Ah, la chose.
C'est ça leur honneur. Être patron d'entreprise, il faut que je vous le dise, c'est être bon joueur, c'est être aventurier. Être patron d'entreprise, il faut que je vous le dise.
Message à caractère informatif. Petite chanson sur les patrons. Et oui, donc on se dit les patrons au cinéma, il y en a plein. Il y a Michael Douglas dans Wall Street, il y a Louis de Funès qui a toujours fait plein de patrons. Un biopic sur Pierre Gattaz, ça vous tente ou pas?
Pourquoi pas? Écoutez, il y a quand même aussi Jeff Tuche qui est...
Oui, j'allais vous le dire. C'est pour ça qu'on a choisi le sujet en partie. En
fait, il a racheté Bias, l'usine de billes, et il a fait que tous les ouvriers sont actionnaires. Et toujours avec cette devise. Travailler moins pour gagner plus.
Voilà.
Le conseil d'administration de la société est un grand moment.
Voilà, exactement.
Il dure 10 minutes. Est-ce qu'on peut dire un peu plus loin dans le film que, justement, quand il devient encore plus patron aux États-Unis, c'est là que ça risque de capoter avec Chicorée, avec votre personnage.
Il se jobise.
Oui.
Steve jobise.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a, un rebondissement, mais c'est là que la psychologie des personnages prend toute son épaisseur.
Absolument. Il part en sucette. Et donc, non, mais son bon sens va le rattraper quand même.
Mais il prend goût pour le travail.
Il adore ça.
Ah, voilà.
Mais c'est l'imprégnation américaine, ça. je pense.
C'est le rêve américain par les Tuches 2 qui sort.
Enfin, le cauchemar américain.
Oui, qui sera en salle mercredi prochain.
Mais c'était pas vendeur, de mettre cauchemar américain, en fait.
Bien joué. Storytelling.
Alex Vizorek, ramenez-moi en 2021. Nous y sommes encore 3 jours.
Ramenez-moi.
En 2021.
Avec une chronique de Constance.
Oh oui.
Constance.
Ah, mes amis, quel bonheur de venir chroniquer tous les mardis en votre compagnie. Quelle aventure. C'est extraordinaire d'explorer le monde de la rigolade à bord du bateau du rire. Hissez la grand voile. Moi qui suis du genre à choper la tourista dès que je vais au-delà de la frontière picarde, eh bien, miraculeusement, à vos côtés, je sais que je pourrai aller au bout du monde de la blagounette tout en gardant des selles parfaitement moulées. Quel jour sommes-nous, Moussaillon? Nous sommes le 12 octobre, capitaine Constance. Quoi? Mais c'est incroyable, Moussaillon. Car hier, c'était la journée mondiale de Christophe Colomb. Comment? Christophe Colomb? Le petit boutonneux dans ma classe de 4e D qui pensait qu'on faisait les bébés par le cul. Mais non, pas du tout. C'est un homonyme. Ne soyons pas homophobes, capitaine. Mais du coup, si on parle pas de ce petit pédé de Christophe Colomb de ma 4e D, de quel Christophe Colomb parle-t-on? Nous parlons ici de Christophe Colomb, l'explorateur qui a découvert l'Amérique. Mais non, c'est Jonassin qui a découvert l'Amérique. Non, taisez-vous. Fake news, Moussaillon. Mais Christophe Colomb et Jonassin avaient en commun le strabisme. Et pour Christophe Colomb, ça s'est avéré lourde conséquence lorsqu'il a réglé son GPS. Il est parti un jeudi et il a déclaré en regardant loin avec son œil qui chie, l'eau qui cherche le papier. Caramba, ya m'a envie de découvrir l'Amérique. Olé, tortilla y sangria. Mais c'est quoi cet accent espagnol, capitaine? Il était génois, Christophe Colomb. Je m'en fiche! C'est ma chronique historique, alors je fais ce que je veux. Et je sais pas faire l'accent italien. Et puis il est parti d'Espagne, du coup j'ai droit. Comment il aurait pu dire je vais en Amérique si l'Amérique n'existait pas, hein? Oh, eh bien, écoutez, cela peut arriver parfois. Moi, par exemple, quand je dis je vais au Franprix, eh bien, je vais à Carrefour, parce qu'il n'y a plus mon petit camembert préféré à Franprix. Donc, je change de magasin, et c'est mon droit, car je suis une femme libre. Libre, vous m'entendez? Ah oui, je vous entends, capitaine, vous me hurlez dans l'oreille. Mais, enfin, camembert ou pas camembert, Christophe Colomb, il voulait aller en Inde, et puis l'intérieur de l'Amérique. Oui, et du coup, les Indiens de Nain, on les appelle les Nindous. Oh, n'essayez pas de m'embrouiller avec vos histoires de nains aux poils soyeux. Donc, ensuite, c'est pas nous qu'on a découvert l'Amérique, c'est l'Amérique qui nous a découvert. Et très précisément, le 6 juin 44. On le sait, parce que ça a été filmé. Ils sont débarqués pour nous vendre des produits comme les hamburgers, les chewing-gums, les collants en nylon qui collent à la touffe. On dirait qu'on a... Oh, la mode, c'est du velcro. Alors, mais dis donc, est-ce que ça a une grosse valeur historique ce que vous nous dites, capitaine? Non! Non, évidemment non! Je dis n'importe quoi! Vous pensez peut-être que je devrais faire une chronique rigolote sur la vérité vraie? Ça vous fait rire, les ignominies des conquistadors? Vous trouvez ça drôle, le génocide indien? Vous avez vu dans quel état ils sont, les 4 pauvres Indiens qui restent dans les réserves? Ils sont gros alcooliques! Alors je préfère parler camembert et collant qui collent à la motte! Mais capitaine, vous faites de la cancel culture! Non! Je fais de la tralala à la culture! De la liane. Voilà! La semaine prochaine, je viendrai vous parler de la délicieuse recette de la gueule cassée, la vinaigrette de gaz moutarde, façon 14-18. Miam, miam! Oh, Constance!
Elle est toujours comme ça?
Toujours. Alex, ça vous dirait de monter dans la DeLorean?
Allez, retour avec la mère Nanty.
Mais oui, en 2016, on compte rien du tout. Oui. On poursuit la conversation.
Exactement.
Sauvez-moi! Ne me laissez pas fin décembre dans ce studio avec Vizorek, on s'en sort plus. Oui, on poursuit la conversation avec notre invité. Et puis on écoutera Frédéric Fromet tout à l'heure. Oui. On aborde le troisième sujet. Au lieu d'utiliser Uber ou Amazon et d'engraisser une start-up qui exploite ses salariés, lancement toujours objectif de ma part, voilà, pourquoi ne pas encourager l'alternative, une communauté d'utilisateurs où le partage serait réellement démocratique, où les règles sont établies de manière collective, hein, parce que là, tout est basé sur l'échange. Vous savez, je vous rappelle ce que c'est l'échange. Voilà. Je me demandais au bout d'un an et demi quand on allait passer du Annie Cordy dans l'émission.
Eh ben ça y est.
Et l'occasion fait le larron. Alors, Isabelle Nanty, on a pris conscience, ça y est, qu'on vivait à l'heure, dans l'ère de l'ubérisation de la société. Aux États-Unis, on peut même ubériser son linge sale et le récupérer propre, c'est formidable. Vous êtes consommatrice de ce genre d'appli de partage, entre guillemets, il est marrant ce nom de partage, ou vous êtes plutôt pour résister?
Bah moi, ça. Je prends toujours les taxis. Mm-hmm. D'ailleurs, à chaque fois que je prends un taxi, il dit « Ah bah vous prenez encore les taxis !»
Ils en gueulent.
Eux-mêmes, ils sont surpris. Voilà.
Ça leur fera plaisir. Enfin, là, ils écoutent RMC, mais sinon, s'il y en a un qui nous écoute, bonjour le taxi qui écoute France Inter. Voilà.
En fait, j'ai pas d'appli sur mon iPhone parce que je suis toujours en surstockage.
Ah.
Donc, je ne suis donc pas tombée dans tout ça.
Ça vous dispense.
À cause peut-être de mon incapacité à m'adapter au monde actuel.
Mais alors, c'est des startups qui se mettent aussi une partie d'argent dans la poche. Alors, l'article du Courrier International explique aussi que pourquoi ne pas fonctionner en coopérative, où finalement, les utilisateurs sont aussi les propriétaires et se partagent vraiment les choses.
Ça, je suis plus pour.
Ah.
D'ailleurs, j'ai lu que dans, je sais plus dans quel pays,
une alternative à Amazon peut-être.
C'est les seniors qui se sont rassemblés. Je m'intéresse aux seniors.
Mais je n'en ai fait aucune remarque.
Plus pour longtemps. Donc si vous voulez, moi je suis déjà en train de prévoir plein pied bord de mer.
Ah oui. Ah.
On prend sa retraite ou
c'est ça la question. Ah. Je suis pas contre une tiny house, vous savez ces petites maisons qui peuvent être transportées sur des roulettes.
Ah bon? Mais alors vous envisagez ça à plusieurs?
Oui,
c'est-à-dire
avec des services, avec une infirmière, une cuisinière,
une sorte de copropriété, de coopérative,
petit lotissement comme on disait autrefois. Et voilà, avec des...
Dans le film Les Tuches, vous avez un mobile home, mais alors de première classe.
Il est immonde.
Bah alors, j'ai pas dit qu'il était beau, j'ai dit qu'il était grand.
Il est immonde, je ne sais même pas comment on peut avoir envie de voyager dans un truc pareil.
Mais c'est, ça a l'air confort.
Pas tant.
D'accord.
Pas tant. Franchement, il vaut mieux avoir plus petit et plus confortable, ou en avoir plusieurs qui suivent comme des cirques, plutôt qu'un grand comme ça.
Voilà, en tout cas, sachez qu'il existe des alternatives. Hein. Je cite par exemple Fairmondo, qui est un site allemand du genre Amazon, mais qui appartient à ses utilisateurs et non à un quasi-monopole en guerre contre les éditeurs. Voilà, c'est fait, le message est passé.
Je peux vous demander un petit service, parce qu'en fait, ce que j'admire beaucoup chez vous, c'est que non seulement vous êtes drôle, mais en plus vous êtes super calé et vous comprenez tout. Moi, qui ne comprends rien, rien. Tout à l'heure, j'ai lu un article parce que je me suis acheté
le
Courrier International.
Oui, vous avez bien fait.
Alors, je frimais dans la rue parce que c'est quand même la première fois. D'habitude, c'est plutôt elle ou je sais pas quoi. Là, je me sentais, importante. Et alors, je lis un article et tout d'un coup, je vois le nom d'un mec qui était dirigeant de la Sparkasse.
Oui.
Et j'ai lu Shakespeare.
Ouais.
C'est tellement je suis dyslexique qu'au lieu de lire Sparkasse, je lis Shakespeare. Puis juste derrière, je vois qu'il est de Kitzbühel. Et là, ça me dit un truc parce que j'ai fait un séjour linguistique quand j'étais petite à Kitzbühel. Mais vous voyez à quel niveau je reste. Donc, je trouve qu'il faudrait faire de la pédagogie de l'économie parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme moi qui ne comprennent rien et qui se font mener en bateau et qui du début à la fin ne comprennent pas bouffent les chiffres machin mais en fait on se fait mener un peu
et c'est vrai
est-ce que
vous pourriez
pas faire une espèce de
économie
une petite rubrique où vous expliquez les fondamentaux de comment on se fait entuber.
Oh, c'est une très très bonne idée. Si vous progressez, on vous prend pour la faire.
vous voyez ma dyslexie hein, quand même. Elle est dangereuse.
Et on rappelle aux éditeurs que Shakespeare n'est pas de Kitzbühel, bien entendu.
Et lisez le Courrier International, c'est un très bon journal. Alex, je sens qu'il faut que cette émission se termine parce que je dérape sur tout, je n'ai plus les mots. Que va-t-il se passer maintenant pour nous libérer?
S'il faut éviter un nouveau dérapage,
oui.
Peut-être passons directement à la fin de l'émission et on passe par promet.
Aïe.
Mais bien sûr, moi je ne suis pas d'accord du tout, ami français qui m'écoutait, avec ce que dit Frédéric Fromet sur la France moche.
Aïe.
Je trouve que cette France est magnifique.
Eh bien, je tenais à saluer les communes qui ont reçu le prix de la France moche pour l'accumulation de panneaux publicitaires. J'ai lu qu'elles n'étaient pas contentes. Alors je leur dédie cette chanson.
Moche, avec tes panneaux, franchement, qu'est-ce que t'es moche. Tout ça pour que certains s'en mettent plein les poches. Avec des fausses promos pour un kilo de bidoche. C'est les pubards qu'on rêve de foutre au tourne-broche. J'ai posé mes yeux sur vos affiches dégueulasses. Sur Saint-Maclou, optique 2000 ou Carglass. Moche, comme vos pubs pour McDo ou pour jouer club.
sur toutes les affiches, il faudrait ajouter Zob. Monsieur le maire, oh laissez-moi rien qu'une fois cramer tous vos panneaux dans un grand feu de joie. Tous vos 4x3, ils me disent que je suis moche avec mes panneaux à la con. Sûrement que Juliette Binoche va lancer une pétition avec Marion Cotillard pour dire que c'est affreux, un peu comme les nanars où elles jouent toutes les deux. T'es moche comme un fils de pub, un spot pour un apéricube, comme le matraquage pour faire un tube. T'es moche comme un slogan pour la matmute, un meuble d'un magasin but, comme une magouille de Paul Bismuth. Ils sont tous moches, 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 moches les panneaux. Moche, 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 vilain, pas beau. Un jour le maire me dit, voyons, c'est vrai, c'est peut-être hideux, mais avant tout, c'est du pognon, t'as qu'à fermer les yeux. Et puis qu'est-ce que tu m'embêtes, ça fera une chansonnette. Ils sont tous moches, 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 moches les panneaux. Moche, 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 vilain, pas beau. Moche, 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 les JC de co.
Ah bah c'était une chouette émission. Luz et Isabelle Nanty, oui. J'étais ravie de les réentendre. C'est vrai qu'on ne cache pas notre fatigue, on dérape un petit peu tout ça.
Et il reste encore.
On va dormir. Voilà, on va revenir demain frais.
Un autre demain.
Parce qu'il y a un beau duo.
Oui.
Laure Adler.
Oui.
Et Michael Youn.
Ah.
Ça vous dit ?
Faut les mettre sur une île déserte, je suis preneur.
Allez, à demain mercredi.